La différence représentation et la représentation. La représentation, c'est une image. Alors que le concept signifie. Je crois que c'est capital. C'est une distinction que les savants, aujourd'hui, ne font plus. Ils ont une peine énorme de le comprendre. Mais quand ils disent intelligence, c'est une question de cerveau. Non, uniquement. Parce qu'au fond, pour eux, la signification, c'est la représentation. Alors que pour nous, le langage symbolique, on va arriver aux différents langages, c'est un langage dans lequel la signification et la représentation sont intimement liées. Je crois que le premier moment du langage, dans les premières cultures, comme le langage de l'enfant, il est symbolique. Mon langage est symbolique, au départ. Un enfant vit dans un mythe merveilleux quand il joue. Entrez dans le jeu d'un enfant. Même un enfant qui regarde constamment la télévision, pour lui c'est un mythe. Donc c'est un langage symbolique. Notre premier langage est un langage symbolique. Petit à petit, on a appauvri notre langage dès qu'on était à l'école. C'est un phénomène qu'on reconnaît aujourd'hui. Un enfant, avant d'aller à l'école, fait des dessins merveilleux. Dès qu'il va à l'école, il perd cette espèce de symbolisme. Il devient un langage logique. Terrible. Logique. Et là, on essaie de comprendre ce langage. Il y a un langage pratique. Jamais. Pour rentrer les maisons, etc. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il faudrait. Mais il y a le langage pratique. Langage. C'est la parole de Kant sans galère. Existe ou je possède dans mon imagination. Donc on arrive à préciser un langage mathématique des possibles. Vous savez comment Aristote montre l'origine des mathématiques. Les mathématiques sont nées en Égypte grâce à un caste sacerdotal qui avait des loisirs. Ça, c'est l'Aristote qui dit ça, je trouve ça bien. Parce que ça montre que l'aspect spéculatif naît du point de vue religieux. C'est pas si bête. Dès que le point de vue religieux disparaît, on tombe dans le positivisme. C'est plus que l'économie, c'est plus que l'argent. Tandis qu'au contraire, les mathématiques sont nées en Égypte grâce à la caste sacerdotale qui avait des loisirs. Alors vous commencez à avoir un langage du possible. Et ce langage du possible, comme il n'a plus référence aux carottes qui existent aux pommes de terre, ce langage redevient symbolique. Mais l'enfant vit dans un rêve, c'est un langage symbolique. Le mathématicien regarde les possibles. Les possibles, on ne peut pas les montrer. Donc, il faut que le mot soit symbolique. Il faut qu'il y ait un langage symbolique. Et le langage symbolique va contaminer maintenant la logique symbolique mathématique. Alors on va avoir une logique symbolique qui ne sera plus la logique de la réalité. Il y avait à Fribourg un professeur de philosophie, notre cher père Borensky, qui me disait, il y a 10 ans, il disait ça. Il a écrit au même plus de 20 ans maintenant. Il me disait, dans 10 ans, il n'ira plus comme philosophe, jour je l'ai vu, petit déjeuner, parce que c'était là où on avait contact. Parce que là, il était de bonne humeur. Après, dans la journée, il était de bonne humeur. Là, il était de bonne humeur. Alors, je lui ai dit, oh, l'ordinateur a supprimé la philosophie. Je lui ai dit, l'ordinateur va montrer que la logique mathématique n'est pas philosophique. C'est la philosophie. Non. L'ordinateur va montrer que l'ordinateur, que c'est autre chose. Parce que le jugement d'existence, l'ordinateur le donnera. Parce qu'au fond, lui, il est du possible. C'est le possible. Il y a un langage symbolique du possible. Il y a un langage affectif. C'est évident. Il y a un langage artistique, poétique. Vous avez donc toute une série de langages différents qui sont de fait. Critique, les diverses alliances de l'intelligence avec le sensible, l'imaginaire, l'affectif ou une intelligence séparée. Il y a un langage métaphysique qui n'est pas le langage de la cuisinière. Le langage métaphysique, c'est le langage de l'intelligence qui touche les réalités dans ce qu'elle est plus profond. Et le langage philosophique et métaphysique demeure un langage qui reste réaliste, qui veut étudier l'homme dans ce qu'il est plus profond. Ça confond le développement des sciences d'aujourd'hui oblige le philosophe de comprendre que si la philosophie existe, c'est pour parler de l'homme dans toutes ses dimensions. Et ce langage-là n'est pas un langage symbolique, c'est un langage analogique, c'est-à-dire un langage qui veut atteindre la réalité, l'homme, dans ce qu'il a de plus profond, à ses différents niveaux. C'est ça le langage analogique. Le langage analogique fait toujours référence au jugement d'existence. À chaque moment, je sais la référence à la réalité. C'est un langage qui va essayer de comprendre la réalité dans ce qu'elle est plus profond. La volonté dans ce qu'elle est plus profond. La vérité dans ce qu'elle est plus profond. Mais tous les transcendants regardent directement ce qui. Alors, évidemment, ce langage multiple et divers est très important. Aujourd'hui, c'est terrible parce que pratiquement, quand vous avez affaire à des philosophes, à des structuralistes, pratiquement, ils n'acceptent qu'un seul langage, le leur. Comme si c'était à partir d'eux que l'homme avait réfléchi. Oui, c'est là où on voit l'orgueil. Ils ne peuvent plus s'enraciner dans le trésor de l'humanité, le patrimoine de l'humanité, de la réflexion des hommes disparaît. Et il n'y a plus que cette génération spontanée que représente le structuralisme. Parce que c'est une génération spontanée, ça ne va pas très loin. Mais c'est un printemps qui ne durera pas. Et on revient aujourd'hui. Ça, j'en suis persuadé. Chez les jeunes, on revient avec le désir d'un enracinement beaucoup plus profond. Parce qu'ils sentent très bien que ce langage du structuralisme n'explique pas l'homme, n'explique pas ce que c'est que l'amour humain, n'explique pas ce que c'est que la poésie. Ça n'explique rien du tout. Ça explique, oui, une philosophie du possible. En réalité, le structuralisme ne saisit pas de réel. Il saisit les idées possibles de l'homme. Alors, vous voyez, je dis un langage philosophique c'est le langage philosophique, métaphysique, qui va me permettre de coopérer avec le langage divin.
Est-ce que vous pouvez encore juste apprendre d'être afin de tous vaincre les occupations pendant midi, mais encore au niveau de la parole humaine, voir qu'est-ce que c'est le sens littéral et voir quand il s'agit du langage affectif, qu'est-ce que c'est le sens littéral. Quand il s'agit du langage poétique, qu'est-ce que c'est le sens littéral.
Le sens littéral du métaphysicien.
Voilà. J'ai faim aussi.
Oui.
Parce que ça éclairera.
Oui, yes. D'accord. C'est ce que nous avions pris. On avait fait une petite session là-dessus. Et j'avais pris tous ces sens, le sens littéral du physicien, de la science physique. Qu'est-ce que c'est? Ça revient à l'expérience. La réalité telle que je la saisis par mon expérimentation. Et je dis bien telle que je la saisis par mon expérimentation. Or, le physicien, le biologiste, saisit le réel en se servant du microscope électronique. Donc ce n'est pas la table que je touche, ce n'est pas les carottes que j'achète, c'est ce que je vois à travers mon instrument. Ça, son sens littéral. C'est tout autre que ce que je touche. J'avais vu une fois une psychanalyste qui était quelqu'un, psychanalyste freudienne, elle est morte maintenant. Elle était juive, allemande, à New York. Un fameux conditionnement. Il me semble la psychanalyse freudienne. Et quatre conditionnements. C'était des amis de Paris qui voulaient que je passe une semaine avec elle. Des prêtres ouvriers, psychanalystes, des clergyman, parce que j'étais en Suisse. J'avais choisi un lieu merveilleux. J'avais choisi parce que j'avais Sils Maria, le plus beau lieu. On organisait un lieu extraordinaire. Parce que pour subir pendant 8 jours, la présence. Vous voyez ce que ça représente, un conditionnement. J'ai vu mieux. À un moment donné, je dis, mais le calcul que font les astronomes entre les étoiles est bien plus réaliste que ce que je touche. C'est alors quand vous êtes en face d'un malade, est-ce que vous êtes en face d'une réalité? Vous êtes en face d'un calcul astronomique. Je n'y pense pas. Non. Et dès qu'elle voulait penser, c'était les conclusions astronomiques qui étaient plus réelles pour elle que la table qu'elle touchait. C'est cette table que je touche. Je ne sais pas. Elle est peut-être honnête. Et le positivisme poussé à l'extrême, mais de façon telle que ça vient. Alors, au bout de 8 jours, tout d'un coup, il y avait tous ses amis qui étaient là, on est comme un petit groupe. Tout d'un coup, il me dit, oh, père, ce que vous me rappelez, mon père rabbin. Alors, tout le monde, on m'a dit, après, vous avez fait une analyse merveilleuse. Elle n'a jamais dit ça, était venu me trouver en me demandant s'il ne pouvait pas avoir un dialogue avec moi. Moi, je m'étais représenté comme un aristotélicien, Aristote Freud, en disant « Nous sommes les uns et les autres pour le réel et l'expérience. » Donc, on ne doit pas s'entendre. Alors, comme on était plusieurs, autres, plusieurs psychanalystes, je dis, on va amener nos amis. À peine la première séance terminée, tout de suite, une de ces psychanalystes que je connaissais bien, qui était la plus intelligente, c'est elle qui m'a fait comprendre Freud. C'était non. Elle dit, mais mon père, cet ami que vous avez apporté, oh, ça lui ferait du bien une petite analyse. On a mis des amis, je ne vous ai pas amené des clients. Alors, j'ai tout de suite compris la différence entre l'expérience humaine et le philosophe et l'expérience clinique. Vous voyez, quand on parle de l'expérience, il y a des degrés différents. L'expérience du philosophe, c'est de toucher la réalité. Regardez tout de suite le défaut. Et en vie commune, il y en a qui regardent l'expérience clinique. Et puis il y en a au contraire qui sont dans l'amour d'amitié, qui sont dans la charité, on reçoit l'envoyé de Dieu par la même expérience. Parce que l'envoyé de Dieu, ça me donne un clochard. L'expérience clinique du clochard. Autrement dit, et à partir de chaque expérience, va naître un langage. Et il y a des langages différents. Et nous savons qu'il y a des langages différents. Les Japonais vivent de divers langages. Oui, de différents langages. Et les Chinois aussi. C'est pour ça qu'un Chinois, quand il vous tape le pouce, il y a 7 niveaux du pouls. Quand il voit, il y en a qu'un. 7 niveaux. Je connais quelqu'un, quand il me touche mon pouls, il dit, ah, oui, votre cœur va bien. Mais la foi, oh, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Tiens, toujours le pouls.
Oui, il y a un médecin, oui. Des communautés, un très bon agriculteur, qui va tirer la main.
Il touche
le
7. Voilà. Tout de suite. À partir d'une expérience, vous avez des langages différents. Les Japonais ont le langage. Je connaissais comme ça un Japonais qui était à Fribourg, qui était fils d'un des empereurs anciens, et donc il pouvait encore réclamer le titre d'empereur chinois. Non, japonais. Ils pouvaient le réclamer. Et alors, quand il y avait des gens de la diplomatie qui venaient, ils disaient, j'emploie le langage littéraire. Alors, vous savez, quand vous êtes avec moi, j'emploie le langage humain. J'emploie le langage philosophique. Il faut être très fort pour employer ces langages différents. Nous sommes très grossiers, on n'a qu'un seul langage. Maintenant, ils sont très grossiers. Un seul langage. Mais si on est savant, si on est psychanalyste, on emploie le langage psychanalytique. On emploie le langage philosophique. Oui. Donc je sais, philosophiquement parlant, quand je dis quelque chose, c'est pas la même chose que dans le langage habituel. Et puis j'emploie le langage du théologien. Et j'emploie le langage de l'exégète. Vous voyez, il y a des niveaux différents de langage en fonction. Alors, et par le fait même, chacun de ces langages a un sens littéral qui lui est propre. Chacun de ces langages a le langage propre de celui qui va acheter des carottes. Son langage littéral, c'est de savoir le prix des carottes. comme l'âme. Ça dépend des saisons. Et tout comme ça. Et là, on a un langage, et on ne met pas ça en cause. C'est le langage. Le langage de l'économiste, son sens littéral, c'est l'équilibre économique. Le sens littéral du métaphysicien, c'est pas le même que le sens littéral de l'historien. L'historien, en fonction des documents, regarde-moi ça, voilà mon sens littéral. L'archéologue, le père Delot, qui était un grand ami, et qui était un bon archéologue, le père Delot, constamment, quand j'étais avec lui, on discutait, parce qu'il est un archéologue, il dit, nous touchons le réel. Je dis, moi aussi, je touche le réel. Parce que, en tant qu'archéologue, vous ne vous connaissez pas. Je disais toujours ça. En tant qu'archéologue, vous ne vous connaissez pas. Tandis qu'en philosophe, moi, je peux vous connaître. Vous, l'archéologue, je cherche autre chose. Et vous n'avez jamais découvert l'homme en tant qu'archéologue. Oui, les ossements. Les ossements. Vous ne trouvez pas autre chose que des ossements. Ou des statues. Vous ne trouveriez pas l'homme vivant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme vivant. C'est vous. C'est saisir ça. Vous voyez, chacun, dans son langage, a un sens littéral propre. Et le sens divin a dépassé.
Jésus vivant en Marie, venez et vivez en nous. Dans votre esprit de sainteté, dans la plénitude de votre puissance, dans la perfection de vos voies, dans la vérité de vos vertus, dans la communion de vos divins mystères, dominez en nous sur toutes les puissances ennemies, dans la vertu de votre esprit, et pour la gloire de votre Père. Amen.
Questions.
Oui, est-ce qu'il y a des questions? Voilà.
Faut pas en inventer exprès.
Il vient de se poser. Et n'ayez pas peur, probablement, là, vous recevez quelque chose un petit peu en pleine figure. Vous aurez le temps d'approfondir ces grandes synthèses. Vous comprendrez mieux dans 20 ans. Bon courage. Et c'est vrai. Parce que quelquefois, on se décourage quand on se trouve en face de choses, des éléments divers, on ne saisit pas tout. Laissez descendre ça un peu, approfondissez, vous aurez l'occasion d'y revenir. Vous travaillerez tel ou tel autre aspect, vous direz tiens, et cela, progressivement, votre corps. D'accord, mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir quelquefois tous les aspects, en tout cas, la richesse. Oui, alors.
C'était pour répondre à la question de ce matin, je la repose. La tradition vivante est en première par rapport à.
Ah, tout à l'heure.
Ah oui, ah bon, d'accord. C'est un.
Ce sera le dernier point, je pense.
Ah bon, d'accord, bon, ça va.
Hein, après la pause.
Si j'ai bien compris ce qu'on a fait ce matin, on a étudié la parole humaine pour savoir quel sera son lien avec la parole divine. Bon,
pour savoir ce qu'elle est.
Pour savoir ce qu'elle est d'abord,
pour savoir ce qu'elle est.
La mettre en relation après.
Après, on on verra, hein, savoir ce qu'elle est.
Et si tu es capable.
Si c'est possible.
C'est une question très importante.
Et absolument. C'est pour ça, Monseigneur proposait de prendre un mot, et on le fera sûrement.
Oui, alors
c'est très grand. Hein, mais je crois que ce qui manque très fort aujourd'hui, à mon point de vue, quand on voit ce qui se dit en théologie, en exégèse, c'est précisément une saisie assez nette de ce que c'est que la parole humaine. Et de toute sa richesse, on va peut-être encore creuser un peu, ça m'a toujours frappé, c'est de comprendre ce que c'est quand on parlera de la parole de Dieu, quand on parle du sens littéral, qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas arriver à cet appauvrissement d'aujourd'hui, hein, qui fait que c'est uniquement le point de vue historique, genre littéraire.
Dans cette conception structuraliste ou disons moderne en général, où on dit ceci, la parole, la communication de concepts, on le relie strictement à ces conditionnements, comment peut-on justifier une traduction par exemple? Parce que ce qui justifie une traduction a priori, c'est qu'on se réfère à des concepts identiques qui demeurent. Donc on présuppose justement qu'ils sont les mêmes parce que l'expérience est la même. Je pense que la notion même de traduction ne repose que sur une vision réaliste de la connaissance, de l'assimilation, donc du concept et d'une communication. Comment peut-on si on ne peut pas justifier la traduction, comment peut-on concevoir la parole, du point de vue particulier de la parole de Dieu, autrement non seulement qu'à partir de l'hébreu, mais même en hébreu?
Mais c'est pas possible.
Alors qu'est-ce que dit un structuraliste qui pond un bouquin en français sur la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit n'importe quoi, a priori, dans son propre principe.
Mais il étudie la structure de la phrase, plus pratiquement en français, c'est même pas dans l'hébreu, il fait des références, c'est pratiquement...
Mais comment traduire? Si on dit ceci du concept, qu'est-ce que devient la notion même de traduction? Ça ne veut que rien dire si on ne se réfère pas à un concept commun.
C'est évident, parce qu'on ne peut traduire que si on remonte à quelque chose qui est commun avec celui qui a écrit le bouquin. On se sert de la parole pour remonter à la signification profonde qui nous est donnée en concept. Je crois qu'ils ne réfléchissent pas jusque-là.
C'est
qu'il y a un bon sens qui demeure au-delà de la bêtise philosophique auquel ils se consacrent. Et il reste la nature humaine.
Et encore, il n'y a pas réfléchi au fond dans ce nom. Parce que c'est un jeu de.
Ils s'en usent.
Oui.
Malgré eux. Oui. Sans y réfléchir.
Il n'y a pas de critique du système lui-même à partir de cette proclamation.
Il y a un préjugé.
Il y a un préjugé de ce qui existe déjà. Cette conception de la parole qui est aristotélicienne, ce qui les embête. Aristote les embête terriblement. Je crois que c'est ça qui les embête. Que saint Thomas suive Aristote, ça les embête doublement. Alors saint Thomas, très bien, de son temps. Aristote, de son temps. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il ne donne absolument pas aucune justification. Il voulait une chose de l'unité de la personne humaine.
C'est donc pas un système philosophique,
alors,
finalement.
Le grand principe, c'est ce qui se vend sur le marché.
Ah oui, d'accord. Oui. Donc c'est pas un système philosophique.
Ah non, absolument pas. C'est ce qui se vend sur le marché. Ouvertement.
L'apparence du système, ce serait le point de vue de l'enveloppe du conditionnement.
Mais ce conditionnement que vous dites très justement ne fait pas le lien avec la religion.
Il faudrait quand même regarder, je sais, ce matin, ce qu'écrivaient les premiers, en littérature, les premiers surréalistes.
Les premiers surréalistes avaient quand même une certaine vision de ce que représente l'inspiration.
Oui, mais elle est déjà...
subjective, entièrement subjective. Il respectait l'homme. Il respectait l'homme, tandis dans le
subconscient.
Dans le structuralisme, l'homme est détruit. La mort de Dieu, la mort de l'homme.
Mais elle respectait l'homme d'une certaine manière, mais c'était le subconscient. C'est extraordinaire. Un mot appelle un autre mot. On ne respecte pas du tout l'homme qui pense.
Je respecte globalement.
Ça vient de lui.
Comme un sujet. On avait regardé la diversité des concepts, la diversité des significations, la diversité des sens des théories. Ça, je crois que c'est très important. Même au point de vue humain, constamment, si on est un tout petit peu attentif à ce qu'on dit, on voit que le sens littéral n'est pas le même pour notre vie courante, notre vie philosophique, notre vie affective, artistique, c'est très différent. Et pour l'enfant.
C'est important au siècle de l'ordinateur.
Ah oui. L'ordinateur est une chose terrible, sous ce point de vue-là. Parce qu'il vous empêche de vous joindre. Oui.
Il y a un sens littéral par rapport à Dieu. Et il y a un sens littéral par rapport à l'homme. Est-ce que vous pourriez... Non, je pose la question.
Pour la parole de Dieu, vous voulez dire.
Oui, pour la parole de Dieu.
Attendez un peu, Raoul, je crois qu'il faut... On a parlé de la parole humaine.
Ah bon, d'accord.
Parole humaine.
Non, je vais trop loin.
Divers analogués.
Ce qu'il veut dire, c'est que c'est vrai que le philosophe peut parler de Dieu. Donc, quand le philosophe dit, par exemple, il est nécessaire qu'il existe un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Ça, c'est une affirmation philosophique possible que certains philosophes ont dit. Quand il dit ça, quand il dit qu'il est nécessaire qu'il existe un être premier, quel est le sens littéral de cette proposition? Prends cet exemple. Il est nécessaire qu'il existe un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Quel est le sens littéral de cette proposition? C'est pas un sens historique, parce que Dieu n'est pas dans l'histoire. Au sens rigoureux, c'est pas l'histoire, c'est pas le temps qui me fait rencontrer l'éternité. Si Dieu existe, il est éternel. Et il n'est pas limité au temps. Donc, ce sens de cette proposition, ce sens immédiat de cette proposition, donc littéral, premier, c'est l'affirmation qu'il existe un être supérieur à tous les autres, qui est au-delà du temps. Donc, nous voyons que déjà, avec la métaphysique, le sens littéral peut atteindre une réalité invisible, mais éternel. Et quand j'ajoute que les traditions religieuses appellent Dieu, je prends le sens littéral des traditions religieuses. C'est encore un autre sens. Je les joins. Parce que la signification de l'être premier et la signification de Dieu donnée par les traditions religieuses se rejoignent. Donc on a deux sens littéraux. Ça, c'est très important. Ce qui montre bien que notre intelligence dépasse le langage, ce qui est capital, puisqu'au fond, c'est le problème de la signification. C'est que l'intelligence dépasse le langage. Si vous restez uniquement au langage, vous pouvez distinguer différents sens, mais vous ne pouvez pas les unir. Pour quelque chose qui s'unir. Et ce quelque chose qui peut s'unir, c'est l'intelligence au plan métaphysique qui atteint une réalité au-delà de tout ce que je peux constater immédiatement et qui respecte les traditions religieuses, qui est encore autre chose. ça, en critique philosophique, je peux le dire. Je dis bien que c'est la critique. Vous voyez, je réfléchis sur toutes les parties de la philosophie. Je réfléchis sur la signification profonde de mon langage philosophique. Et je vois que mon langage philosophique est analogique. Il est divers dans ses significations. Et pourtant, il y a une unité. Pour qu'il y ait analogie, diversité et unité. Là, on peut tous être d'accord avec plus ou moins de brouillard. Mais on peut tous être d'accord. Je crois quelqu'un qui accepte une philosophie réaliste est d'accord avec ça. Quelqu'un qui s'enferme dans une philosophie idéaliste sera déjà beaucoup plus difficile. Parce qu'il n'a plus la réalité qui mesure de mon intelligence. C'est ça la très grande différence. Et c'est l'idée qui mesure mon intelligence. Alors là, le point de vue analogique est beaucoup moins fort. Mais on reconnaîtra quand même, même chez les idéalistes, qu'il y a quand même des plans divers de signification. Mais comme nous passons dans une philosophie réaliste, ça, on peut le reconnaître.
On peut faire le passage.
Alors, le passage est tout de suite au niveau de la foi. Au niveau philosophique, je ne peux pas dire que Dieu a parlé aux hommes. Heidegger, en pur philosophe, dit que le philosophe est en attente que Dieu parle. Donc il est toujours en retard. Parce que Dieu a parlé. Donc il est en attente. Mais c'est très joli, ça. Je pense que ça peut être. C'est pas. Parce qu'au fond, pour lui, l'intelligence humaine ne peut pas affirmer l'existence d'un être premier. Mais l'intelligence humaine attend. Le phénomène de l'attente. Parce que Heidegger n'accepte pas qu'il y ait un concept d'être. Donc, il n'y a pas de signification véritable de l'être. La seule signification de l'être, elle est dans l'interrogation. Et donc, en définitive, elle est dans la pensée. Elle reste subjective. La signification de l'être, pour Heidegger, reste subjectif. Donc il n'y a plus d'analogie possible pour remonter jusqu'à lui. Donc le philosophe est en attente. C'est vrai que je ne peux parler de la parole de Dieu qu'au niveau de la foi. Ceci, c'est capital. C'est pas le philosophe qui me dit comment Dieu parle. C'est le croyant. Pour le croyant, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Au niveau de la foi. Au niveau de la foi, c'est que justement, le croyant, c'est celui qui reçoit de Dieu un message. Une lumière. Qui l'instruit. Dieu ne touche pas seulement mon cœur. Donne l'impression à celui qui est sacré. Je tremble. Mais la foi, ce n'est pas ce tremblement. Oui, c'est pour certains, c'est ça. La foi, c'est un tremblement. Je n'ose pas, je n'ose pas avancer. Ce lieu est saint. Il y a quelqu'un. Non, la foi est un enseignement que je reçois de Dieu. Il y a deux grandes définitions d'église au point de vue de la foi. Concile d'Orange. Doit beaucoup aimer, Vatican. Deux extrêmes. Et le croyant part de cet enseignement actuel de l'Église. très beau de voir que la
des évangiles, comme on dit aujourd'hui, c'est pas le complément, pas du tout.
l'absolu, et ces révélations privées doivent être vues en relation avec, et ne pas du tout les utiliser comme l'évangile. Ce serait ramener l'évangile à des révélations privées. Et l'évangile, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, puisque c'est la révélation officielle de Dieu pour moi.
Il y a un très beau texte de Jean-Paul II à Fatima.
C'est même par que
ah non, on peut le trouver.
Oui,
je vais le trouver. Un beau texte.
Oh oui, ça c'est. Bon. Alors.
Le lien des deux.
Or, de fait, Dieu se sert du langage des prophètes. Langage de tous. Dieu se sert dans le Christ. En ces derniers temps, il nous a révélé par son Fils bien-aimé, les débuts des Épîtres aux Hébreux, sur lesquels on viendra peut-être après. Parce que je crois que ce texte est très très important. L'Épître aux Hébreux, ce manuel-là, est merveilleuse pour nous dire ce que c'est que la parole de Dieu. La parole vivante. C'est aussi très important. Cette parole est vivante, la parole. Mais il va vous trouver la tradition. Parole vivante, c'est pas une parole écrite. Elle est écrite de fait, étant donné le conditionnement humain qui a besoin d'écrire à cause de la mémoire défaillante. Mais c'est une parole vivante. C'est-à-dire, comme dit saint Thomas, une parole qui est liée à sa source. Dieu, pour moi, me parle à travers les prophètes et à travers Jésus. C'est une parole actuelle. Je n'ai pas besoin d'actuer la parole de Dieu en disant aujourd'hui, j'ai horreur de cette expression. On n'actue pas la parole de Dieu. C'est elle qui actue tout. C'est elle qui actue mon intelligence, qui actue ma foi. C'est la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Or, Dieu se sert de la parole des hommes. Alors, réfléchissons sur ce passage de la parole divine donnée par la foi. Et dans la foi, et cette parole humaine. Puisque Dieu, lui, me révèle sa lumière, il me révèle sa connaissance. Dieu, il est lumière, donc il est au-dessus de toute connaissance abstraite. Rien d'abstrait dans la connaissance de Dieu. Et dans le Christ, il y a une science infuse. Dieu connaît. Jésus connaît tout comme roi de l'humanité, comme roi de l'Église. Il connaît tout. Et il a en plus cette vision béatifique, mais comme la vision béatifique est intraduisible, on peut dire que c'est à travers toutes ces expériences internes de Dieu du Père et à travers sa science infuse que Jésus transmet le mystère du Père. Il est envoyé comme fils bien-aimé qui nous transmet en premier lieu son lien avec le Père. Et dans ce lien, il voit tout, il reprend tout. On peut dire qu'il y a une reprise de tout ce qui a été donné dans l'Ancien Testament pour l'achever dans la lumière de la très sainte Trinité et dans la lumière de la filiation à l'égard du Père et dans la lumière de l'Esprit Saint. La parole humaine, elle a une signification qui est au niveau de ma propre expérience, de mes propres recherches. La parole humaine peut arriver à un certain niveau de sagesse. Sagesse humaine, philosophique. Et là, la parole humaine a une signification ultime. C'est-à-dire qu'elle est capable de tout voir dans les lumières du Créateur. Doit aller jusque-là et une sagesse. Cette sagesse peut être au service de la parole de Dieu. On n'exprime pas le concept de Dieu immédiat qui exprime le mystère de l'Église. La lumière de Dieu, c'est son verbe. mystère. C'est là où je ne peux pas capter le Verbe de Dieu. Tandis qu'un concept humain, je peux le préciser. Mais un concept de sagesse, je peux le préciser. Tandis que le mystère du Verbe, qui est transmis à travers la parole divine. Toute parole divine est liée au Verbe. Toute parole est liée au Verbe. Et donc transmet la lumière même du Verbe à travers cette parole humaine qui en est comme le canal instrumental et qui passe à travers un instrument vivant. Puisque c'est tel prophète qui parle ou c'est Jésus qui parle. Et Jésus a une nature humaine avec des concepts semblables aux miens. Mais ces concepts ne sont jamais vécus au niveau philosophique. Jésus n'est pas un philosophe, il est le fils bien-aimé. Il ne s'est jamais arrêté de philosophie. Comme Jésus ne s'est jamais arrêté de psychologie. Il est toujours dépassé. C'est pour ça que je suis obligé, moi aussi, de faire le même dépassement. Et je fais le même dépassement autant que je peux. Jamais autant que lui. C'est évident, puisque lui, la nature humaine subsiste en Verbe. Donc, le Verbe peut se transmettre d'une manière tout à fait particulière, et d'une manière plus parfaite par Jésus que par les prophètes. La parole de Jésus ne peut pas se ramener aux paroles prophétiques de l'Ancien Testament. Il y a une continuité, c'est sûr, et en même temps, il y a une discontinuité. Puisqu'on a une plénitude de vérité. Une plénitude de vérité. À travers la parole de Jésus. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est le passage de l'un à l'autre. Ce passage est possible quand je suis en face d'une certaine signification qui, elle, n'implique aucune imperfection. Alors, je peux comprendre comment Dieu se sert de ce langage humain, de la signification de ce langage, pour me donner une nouvelle signification. Alors, là, c'est très très délicat. Je suis obligé d'entrer dans une petite étape. Je prends Saint Thomas comme lumière. Hein, et je crois que j'ai essayé de le comprendre en dehors de ça. Je n'ai jamais pu. Saint Thomas fait cette petite distinction. Il nous dit ceci, qui à première vue peut nous sembler un peu terrible. Le concept de la préhension. Vous voyez que là, il y a toute une philosophie. C'est la première opération de l'intelligence. Appréhension et jugement. La théologie de Saint Thomas se sert des deux. C'est important de comprendre ça. La signification première, c'est l'appréhension. J'ai des concepts de ça. Et l'appréhension a trois niveaux pour Saint Thomas. Confus, clair, puis au niveau métaphysique. Au sommet, c'est la ration à tout. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des niveaux différents. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, du reste, hein, quand je mettais connaissance affective, connaissance poétique, connaissance métaphysique, on voit bien l'appréhension chaque fois me donne une signification différente. Et dans la connaissance métaphysique, je peux dire qu'il y a un sommet, la ratio actus. C'est là où mon intelligence est la plus pénétrante. Et bien Saint Thomas nous dit ceci, la foi ne nous apporte aucun nouveau concept de la préhension. Si la foi nous apporte un nouveau concept de la préhension, il y aurait une nouvelle langue. Comme Dieu se sert de la langue humaine existe. Dieu est père. En tant que croyant, c'est pas la même chose que quand je dis qu'il est nécessaire qu'il existe un être premier qu'on appelle Dieu. Et même qu'on appelle père, qu'on appelle créateur, c'est pas la même chose. Parce que quand je dis dans la foi, Dieu est père, dans cette affirmation de Dieu, il y a tout de suite la très sainte Trinité. Je ne peux pas, en croyant, affirmer l'existence de Dieu sans la très sainte Trinité. Et donc il y a un jugement nouveau qui porte sur la réalité. C'est la très sainte Trinité. Père, la Fils et l'Esprit Saint. Voilà la lumière qui vient des dents, qui illumine tout. Alors vous voyez, c'est ça qui est très subtil. C'est que je passe du langage de la parole, de la parole humaine, du langage humain, qui a sa signification propre. Cette signification, elle n'est pas changée par la foi. Mais le jugement est changé. J'adhère à une autre réalité dans laquelle le concept que j'ai au point de vue humain est complètement dépassé. Concept ouvert à ce jugement divin. Et pour que ce concept soit ouvert à ce jugement divin, il faut que ce concept en lui-même n'implique aucune imperfection. Quand je dis tu es père, mais oui, quand je dis père, c'est ça qu'on appelle le passage de des notions philosophiques bien précises à quelque chose de tout à fait nouveau, qui est ce même, pas ce même concept, mais ce concept avec sa signification, qui éclate dans le jugement de foi. Et c'est dans ce sens-là qu'il peut y avoir une théologie. Parce que s'il y avait de nouveaux concepts, il y aurait tout simplement deux langages différents. Et parce que ces mêmes concepts, la théologie peut exister. Il y a un nouveau jugement. Dieu est amour. Bon, je peux avoir une conception de l'amour au plan philosophique. Même si c'est vengé. Bon, je peux avoir une conception de l'amour au niveau humain. Alors, je purifie cette notion d'amour entre l'amour. En soi, n'a aucune imperfection. L'amour humain est imparfait, mais l'amour en soi n'a aucune imperfection. Et quand je dis que Dieu est amour, j'affirme cette existence de Dieu amour à l'infini. Mon concept éclate. Je n'ai pas la saisie de cette manière particulière dont Dieu est. Ça éclate. Mais il reste quand même la signification d'amour. La signification d'amour reste la même, mais elle éclate en son corps. Dieu aime autrement que l'homme. Je peux dire que Dieu aime, je peux dire que cet homme aime. Mais il aime tout à fait autrement. Vous voyez, allitéralité, c'est ça l'analogie. Donc, c'est l'altérité totale. On dit, il y a un petit quelque chose de commun. Non. Je disais ça à un bon père jésuite une fois. Je me dis, mais non, on ne peut pas dire ça. Je dis, parce que vous avez toujours Suarez derrière vous. Et Suarez dit quelque chose de commun. Et alors ça, c'est terrible. Parce qu'alors, on ne peut plus contempler. Vous voyez ? La théologie doit nous conduire à la contemplation. Et non pas tout le temps raisonner. Donc il n'y a pas un petit quelque chose de commun, si je connaissais quelque chose de Dieu ou quoi. Non, Dieu est transcendant, tout à fait simple, donc il dépasse. Mais en même temps, je connais quelque chose de lui. Oui, cette double affirmation qui n'est pas commode, je comprends très bien, parce que sur des pensées univoques, on ne peut pas comprendre ça, faut affirmer un nouveau concept, un nouveau jugement qui porte sur le mystère de Dieu, dans sa transcendance, le Dieu trine. Le Dieu trine qui implique le mystère de Jésus, qui implique le mystère de la rédemption, qui implique le mystère de la grâce, tout est. La foi d'une connaissance merveilleuse, elle est contemplative. Elle n'est pas analytique. Elle est contemplative. Et elle n'a pas le fait même qu'elle est contemplative. Elle supporte l'analyse théologique. La théologie implique une analyse pour enlever tous les brouillards imaginatifs. Et la foi en elle-même est tout à toute analyse. Pour ça qu'elle est contemplative. Elle est une attente de la vision béatifique. Ah, vous voyez ce qu'il y a de commun entre la parole humaine et la parole divine, c'est très ténu. C'est ce mystère, cette signification de la parole humaine qui devient dans la parole divine un mystère. J'ai la signification. Oui, ça je peux préciser. Par exemple, j'ai la signification de la ratio patrice. Je peux philosophiquement savoir ce que c'est que le père. Qu'est-ce que c'est qu'un père? Un père, c'est quand même un principe. On le veuille ou pas, c'est ça qui est gênant pour nous. Le père, il est avant nous. Il restera toujours avant nous. Si vous n'acceptez pas que le père soit avant vous, c'est plus votre père. Aussi bien spirituellement que selon la chair et le sang. Le Père est source et les principes. Et le Père, au point de vue humain, est cause aussi. Cause de notre vie humaine. Je purifie cette notion de Père. Non, les principes. Il n'y a pas diverses modalités de paternité. À ce point de vue humain, je sais très bien qu'il y a diverses notions de paternité. Il y a une paternité spirituelle, humaine, le maître. C'est quand même un père pour mon intelligence. Celui qui a été soumis, qui m'a éveillé à la vie intellectuelle. Quand on vous éveille au plan métaphysique, on est père de votre intelligence. On ne dit pas trop l'aimer, mais on est père de votre intelligence. Pour ne pas faire des révoltes, mais au fond, on est père de votre intelligence. On est sourd. Il y a une paternité dans les différents domaines. Je peux comprendre qu'être père, c'est être premier en étant source. Bien, ça n'applique aucune imperfection. Et donc, quand je dis Dieu est père d'un fils éternel, je n'y comprends plus rien. Hein, je ne vais pas dire que vous comprenez. Je n'y comprends plus rien. Je l'affirme. Donc, il y a quand même quelque chose que je comprends pour l'affirmer. Et c'est justement cette transcendance de la notion analogique. Cette transcendance de la notion analogique. Le mieux qu'il peut. En allant plus loin possible. Dans cette espèce d'intelligence de la foi. En sachant que la foi, puisque c'est une lumière divine, c'est plus intelligent que la métaphysique la plus lumineuse qui soit. La métaphysique, comparativement à la foi, peu de choses, petite lumière. Tandis que la foi est une lumière divine, mais qui n'est dans des ordres d'obscurité. Donc elle contient tout ça. Vous voyez, c'est ce passage qu'il faut essayer de saisir. Entre le point de vue de la signification qui se fonde sur la raison de père et l'affirmation du père de son fils. Une fois, jamais dit ça. Des propositions de foi, jugement, un jugement réaliste, adhère à la réalité. C'est une table. Mon intelligence adhère à la table. Mon intelligence peut adhérer. C'est mon ami. À travers l'amour, j'adhère à cette personne. C'est mon ami. Je peux, par la foi, adhérer au mystère, dans l'obscurité de la foi, mais dans la réalité de la foi. Et c'est là où vous voyez le lien entre la parole et la personne. Et dans le jugement de foi, je ne peux jamais séparer la parole de la personne. Et c'est pour ça que je dis, c'est une parole vivante, parce qu'elle est liée à sa source. Et cette source, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que cette parole n'a pas besoin d'être actuée. Parce que ça, c'est la théologie moderne qui dit ça. Je n'aime pas du tout ça. C'est même presque blasphématoire par rapport à Dieu. Comme si on actuait Dieu. On lui apportait quelque chose. Non, c'est Dieu qui m'actue. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est ma fin. Qui est ma lumière. Qui est ma contemplation. Donc, vous voyez, le respect dans lequel nous devons recevoir la parole de Dieu. On reçoit la parole de Dieu pour adhérer à Dieu qui se communique à moi dans sa lumière. Oui.
Vous avez pris l'exemple le plus facile pour ce passage, pour notre compréhension, en tout cas ce lien entre parole humaine et parole divine. Parce que tel qu'il s'est présenté, il se présente même d'une manière absolument contradictoire, finalement. Quand on examine la notion de paternité, la démarche théologique, disons, consiste à épurer cette notion. Mais il n'en reste pas moins que ce qui apparaît au bout du compte, comme ne supposant aucune imperfection, c'est une notion de premier et de source.
Qui
justement, bien que l'appliquant aucune imperfection, se présente pour nous nécessairement comme un être absolument essentiellement supérieur. Or, justement, cette notion-là n'est pas, en l'occurrence, convenable pour la génération éternelle. Le Père n'est pas supérieur au Fils.
Alors,
on arrive à une quasi-contradiction de...
Vous confondez principe et cause.
Oui, alors, comment, justement, c'est là que se situe le vrai passage alors de la parole...
C'est pour ça que je parlais du mot principe. Ah, si vous voulez, j'ai télescopé avec là-dessus. Parce que je voulais aller vite. Mm-hmm. Mais c'était volontaire. Mm-hmm. Vous voyez, c'est pas contradictoire. Le principe comme tel, il est premier, source d'un ordre. Et il n'est pas nécessairement autorité. Tout principe de notre. C'est nous qui bloquons ça.
Oui, voilà. Nous, dans l'autre sens. Donc le passage, pour nous,
il bloque. Parce qu'on bloque principe et cause. Mm-hmm. Alors que le principe comme tel, c'est premier. Et il ne faut pas dire que ce qui vient après est inférieur. Mm-hmm. Vous voyez ? Mais en philosophie, je ne peux pas le dire. Je peux simplement dire que le principe est principe. Je n'ai pas d'exemple. Pourquoi tous les principes, étant premiers, ont de fait toujours quelque chose. Mais ce n'est pas tenu au principe, c'est tenu à tel principe. Le principe comme tel, la ratio principi, oui. C'est là la purification de la raison et de la manière d'exister. Et alors, la parole humaine donc, a sa signification. Elle a sa signification double du côté des mots. Et du côté du jugement, du côté des termes simples qui relèvent de l'appréhension, là, la purification peut se faire. Jamais du côté du jugement. Oui, c'est ce que Heidegger n'a pas compris. Parce que pour Heidegger, le point de vue des étants sont toujours limités. Ceci regarde la science. L'être n'est parfait qu'en niant les étants. Vous voyez ? Et c'est pour ça que la philosophie heideggerienne ne peut pas servir à la théologie. Alors c'est là où je pose un problème, c'est un peu différent d'une autre, et c'est peut-être un petit peu donné, mais quelles sont les philosophies qui peuvent servir à la théologie? Quand on dit ça, c'est terrible, parce qu'on voit qu'il y en a plus beaucoup. Il faut une philosophie réaliste, partant d'un jugement d'existence, et qui distingue appréhension et jugement. Or, il n'y en a aucune parmi les modernes. C'est très très curieux. La distinction d'appréhension et jugement, c'est une distinction qu'Aristote a faite, que saint Thomas a repris, parce que saint Thomas savait que c'était par là qu'on pouvait fonder et justifier les théologies. Il n'y a pas moyen autrement.
Vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'appréhension?
Je suis en critique. Hein. Parce que ça peut, avant la critique, on en a quand même une petite expérience dans le langage. Du logique. Champ. C'est une signification. Un terme simple. Cheval. Animal. C'est une signification. Indépendamment de tel champ. Grâce à l'abstraction. Donc il y a un petit signe là. Chat, je ne dis pas s'il existe ou s'il n'existe pas. Je dis oui, il a dû exister, puisqu'on a mis un terme. Ah si, la montagne d'or, comme prenaient les scolastiques, la montagne d'or, on l'a dans le rêve. Vous avez un désir d'être riche, et vous pensez à un rêve, à une montagne d'or. Vous n'avez qu'à prendre. Vous voyez que ça n'existe pas en vous réveillant. Vous voyez donc la différence entre le jugement, qui applique toujours une référence, plus ou moins lointaine, avec l'existence. Tandis que l'appréhension ne regarde que la signification. Alors, je peux analyser jugement et appréhension au point de vue critique, et je vois que l'appréhension n'existe que dans un jugement. Pas confondre appréhension et intuition. L'intuition, elle est toujours donnée aussi dans un jugement. Mais l'intuition, c'est saisir une relation. Tandis que l'appréhension, c'est quelque chose d'absolument sain qui me donne la signification d'un terme, d'un concept. Mais le concept naît dans l'appréhension. C'est pour ça que je dis que l'appréhension, c'est l'opération sainte, élémentaire. Élémentaire, qui n'existe que pour mon intelligence qui analyse. Elle existe dans la réalité, mais elle existe toujours dans un jugement. Vous ne vous arrêtez jamais à l'appréhension. Et en analysant, en critique, vous dites cela. Et vous comprenez alors comment le langage repose sur la réflexion. Le langage explique la signification des choses. Mais que le langage applique toujours un jugement. Le verbe est toujours dans un jugement. Le nom relève souvent des termes simples. Et que je peux, à partir de là, comprendre, ou moins comprendre, préciser ce qu'est ce dont la foi, cette lumière divine qui ne transforme pas ma manière de connaître, mais qui surélève mon intelligence et qui permet à mon intelligence recevoir la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne modifie pas le langage humain, mais lui donne une nouvelle lumière, une nouvelle capacité de jugement d'existence. Et ne modifie pas. Il n'y a pas une nouvelle grammaire. Parce que justement, il n'y a pas de nouvelle appréhension. S'il y avait une nouvelle appréhension, il y aurait une nouvelle philosophie, il y aurait des prédicables nouveaux. De la part de Dieu, cette espèce de respect à l'égard de l'acte créateur qui crée l'homme et qui lui donne cette capacité d'ouverture vers le divin. continuité que le peuple univoque, puisque l'appréhension n'existe jamais sans jugement. Si l'appréhension existait sans jugement, il y aurait un cordon médical. Mais il faudrait qu'on naîtrait à Dieu, et le cordon médical ferait que notre appel du jeu, on soit directement de Dieu à la lumière. Pas comme ça que ça se passe. On reçoit la lumière par la parole de Dieu. C'est pour ça que je ne peux jamais quitter la parole de Dieu. Et l'illuminisme consiste à pouvoir quitter la parole de Dieu et être immédiatement illuminé. Et donc séparer la parole. Arriver à convertir l'intelligence qui est prise